un instant pour s'occuper des autres, entendre des histoires vraies, des parcours, d'Isérois qui se confient. Michel, vous êtes là pour nous raconter encore un moment, une histoire d'un Isérois, Ignace Pité, qui est né en Suisse en 1944, mais il s'est installé dans notre département à Pontcharrat, précisément, où il fait le marché ou vient de revenir après avoir parcouru 1500 kilomètres. Donc il a fait vraiment une distance énorme pour se rendre en fait à Bruxelles.
Oui, Erika. Alors, je l'avais rencontré en novembre 2009, précisément au moment où il s'engageait dans cette aventure. 65 jours de marche, donc, à travers les montagnes, les vallées, les forêts, les petites routes. Son objectif était gravé sur son bâton de pèlerin, partage et rencontre. Partager avec le plus grand nombre sa vision d'un monde solidaire, changer le monde, c'était un objectif qu'il s'était déjà fixé dès sa prime jeunesse.
J'ai travaillé dans l'agriculture, l'arboriculture exactement, parce que mon père était arboriculteur. Mais je me suis mis à travailler assez tard parce que j'ai d'abord fait des études de philosophie et de théologie à l'université de Fribourg et à l'université de Genève. Et il y a eu une rupture dans ma vie qui a été très importante au cours de mes études, à la fin de mes études, pour ainsi dire, oui, après 5 ans d'études universitaires, j'ai eu une illumination, que j'ai appelé ça illumination, après les événements de mai 68. J'ai eu une inspiration très forte à aller vivre en ermite dans les Cévennes. Et là, ça a été merveilleux, j'ai pu construire mon ermitage. C'était fabuleux parce que je manquais de rien, alors qu'il y a eu une tempête de neige énorme, extraordinaire, on a déclenché le plan hors sec. Et puis, moi, j'étais tout heureux dans l'ermitage que j'avais construit.
Alors, 9 mois d'ermitage dans les Cévennes, et ensuite?
Et après, alors, je suis revenu en Suisse et j'ai trouvé, alors, quelque chose qui correspondait à ma situation actuelle, c'est-à-dire dans un lieu perdu des Hautes-Savoie. Perdu, non, pas tout à fait sur une hauteur. On avait besoin de quelqu'un pour accueillir les gens. J'étais jeune, à cette époque, j'avais 27 ans. Donc, j'ai fait de l'animation de jeunes avec ma conviction, ma foi, etc. Et puis, j'ai attiré pas mal de jeune. J'ai fait beaucoup de musique, beaucoup d'associations. Je fais participer à des associations pour orienter vers le tiers-monde, par exemple. Voilà. Parce que c'était un petit peu aussi dans mes études, ce qui me faisait avancer, c'est surtout le problème de la faim, le problème de la pauvreté, etc. Et ça a été toute ma vie comme ça. Mais il fallait d'abord que je vive cette situation. La simplicité, la pauvreté, en pleine nature. Et là-bas, j'étais au sein d'une communauté. Après, j'ai rencontré alors ma femme. C'est pour ça qu'après 11 ans, en Haute-Savoie, une autre étape.
Vendeuse de glace, boulevard de la plage, sous sa bâche, elle était belle. Un sourire un peu triste, j'ai senti fraise assise, que je pourrais tailler la zone avec elle.
Alors, une grande rencontre, donc en 1981.
Alors oui, et c'est là que j'ai rencontré ma future, qui faisait aussi l'autostop comme moi. Alors là, on a décidé de partir ensemble.
Vous aviez quel âge en 81?
36, 37 ans. Je voulais vivre autre chose, et notamment connaître le tiers-monde. Donc on est parti en 82, on est parti ensemble pour un long périple en autostop. Mais voilà, on est arrivé quand même aux États-Unis, on n'avait plus d'argent.
Oui, parce que j'allais vous dire, vous travaillez
Non, on n'a pas travaillé, on avait un peu de réserve, mais on vivait avec très peu, on avait une petite tente pour dormir. On a fait Los Angeles, Las Vegas d'abord, on a cherché du travail à Las Vegas, et on a travaillé dans les fraises à Santa Maria, c'est entre Los Angeles et San Francisco. San Francisco, on a cherché dans la restauration française, et on nous a dit aller plutôt un peu plus vers l'intérieur, il y a des productions de fruits, les cerises commencent à mûrir. On a trouvé tout de suite.
Et vous, logis,
dans une petite entreprise, dans les lieux d'accueil SCF. Et puis on allait faire la queue, alors des longues queues pour la soupe populaire, c'est incroyable, parce qu'on ne s'attendait pas du tout à ça, aux États-Unis. Alors on est resté quand même 3 mois, parce qu'on a trouvé du travail dans les fruits, et on a été logé dans une caravane.
Vous êtes revenu en France comment?
En avion, parce qu'on avait gagné suffisamment d'argent pour payer le retour, là.
Alors vous restez 3 mois aux États-Unis,
oui.
Vous revenez en France,
oui.
Et là en France, vous allez où?
À Verdun, près d'Apt, donc la Haute-Provence.
C'est une maison bleue, adossé à la colline, on y vient à pied, on ne frappe pas, ceux qui vivent là ont jeté la clé. On se retrouve ensemble après des années de route, et on vient s'asseoir autour du repas, tout le monde est là à 5 heures du soir.
on a trouvé une communauté d'accueil de marginaux, de gens qui essayent de se sortir de la drogue, de l'alcool. Et avec eux, accueil merveilleux dans les Cévennes, dans une ancienne ferme abandonnée qui avait été louée par une association belge pour faire de l'accueil. Ils faisaient de l'accueil pendant les vacances. C'était un lieu où il n'y avait ni électricité, ni eau courante. On avait mis l'eau quand même dans la cuisine avec l'eau d'un ruisseau, mais c'est pas de l'eau potable. On avait l'eau à la source quand même, au pied de la maison. Là, on a vécu vraiment en pionnier. Et quand on a eu deux enfants, ma femme a dit non, on peut pas vivre dans ces conditions-là. On a trouvé en France, à Pancheras, grâce à une amie, on a trouvé un vieux moulin à rénover. C'était une dépendance, on peut dire, de moulin. On a fait une maison très habitable, où on est très heureux, avec nos trois enfants qui ont grandi dans
trois
cette
enfants,
maison.
Oui.
Qui ont grandi dans cette maison.
Et donc là, vous avez fait les marchés?
Alors oui, bien sûr, parce qu'on est spécialisé dans l'arboriculture, la production de fruits. Et comme j'étais passionné de marché, j'avais ce virus. Dans les Cévennes, je vendais des châtaignes. Et j'ai commencé aussi le marché de Chambéry, deux fois par semaine. Et voilà, c'était les marchés principaux, avec La Rochette aussi en Savoie. Mais le marché de Pancheras, je le continue parce qu'il est presque, il est sous nos fenêtres.
Et donc, en marge de cette activité de marché, vous écrivez, vous militez?
Ah, oui, parce que j'avais déjà écrit le récit de notre voyage. Ça a été publié en 2004.
Paysan voilà. Dans la tourmente.
Paysan dans la tourmente. Le sous-titre, c'est Pour une économie solidaire.
Et là, on vous accueille au cours d'une halte à Grenoble, halte qui s'inscrit dans une longue marche que vous avez entamée de Pontcharrat à Bruxelles.
Oui, à pied, avec mon bâton de pèlerin sur lequel est écrit « Partage et rencontre ».
Et donc, vous comptez arriver à Bruxelles
Fin janvier.
Donc, à pied, hein, on le précise.
Oui, je fais une moyenne de 20-25 kilomètres pour permettre quand même les rencontres. Le but, c'est pas de marcher, c'est de rencontrer les gens.
Voilà, Ignace Pité qui vient de rentrer chez lui à Pontcharrat après une longue marche de 1500 kilomètres. Une aventure qui fera sans doute l'objet d'un prochain livre, Erika.
Merci beaucoup Michel, on vous retrouve demain pour d'autres aventures, d'autres parcours et vous retrouvez tout cela bien sûr sur bleuisère.com d'ici, d'ici quelques minutes, maintenant même, on va retrouver un autre personnage, il s'agit d'Antoine Decaune qui vous raconte la vie de Johnny. Un instant pour s'occuper des autres, entendre des histoires vraies, des parcours, d'Isérois qui se confient. Michel, vous êtes là pour nous raconter encore un moment, une histoire d'un Isérois, Ignace Pité, qui est né en Suisse en 1944, mais il s'est installé dans notre département à Pontcharrat, précisément où il fait le marché ou vient de revenir après avoir parcouru 1500 kilomètres. Donc il a fait vraiment une distance énorme pour se rendre en fait à Bruxelles.
Oui, Erika, alors je... 2009, précisément au moment où il s'engageait dans cette aventure, 65 jours de marche, donc à travers les montagnes, les vallées, les forêts, les petites routes. Son objectif était gravé sur son bâton de pèlerin, partage et rencontre. Vision d'un monde solidaire, changer le monde, c'était un objectif qu'il s'était déjà fixé dès sa prime jeunesse.
J'ai travaillé dans l'agriculture, l'arboriculture exactement, parce que mon père était arboriculteur. Mais je me suis mis à travailler assez tard parce que j'ai d'abord fait des études de philosophie et de théologie à l'université de Fribourg et à l'université de Genève. Et il y a eu une rupture dans ma vie qui a été très importante au cours de mes études, à la fin de mes études, pour ainsi dire, oui, après 5 ans d'études universitaires, j'ai eu une illumination, que j'ai appelé ça illumination, après les événements de mai 68, j'ai eu une inspiration très forte à aller vivre en ermite dans les Cévennes. Et là, ça a été merveilleux, j'ai pu construire mon ermitage. C'était fabuleux parce que je manquais de rien, alors qu'il y a eu une tempête de neige énorme, extraordinaire, on a déclenché le plan hors sec. Et puis, moi, j'étais tout heureux dans l'ermitage que j'avais construit.
Alors, 9 mois d'ermitage dans les Cévennes, et ensuite?
Et après, alors, je suis revenu en Suisse et j'ai trouvé, alors, quelque chose qui correspondait à ma situation actuelle, c'est-à-dire dans un lieu perdu des Hautes-Savoie. Perdu, non, pas tout à fait sur une hauteur. On avait besoin de quelqu'un pour accueillir les gens. J'étais jeune, à cette époque, j'avais 27 ans. Donc, j'ai fait de l'animation de jeunes avec ma conviction, ma foi, etc. Et puis, j'ai attiré pas mal de jeunes. Station. J'ai fait beaucoup de musique, beaucoup de d'associations. Je fais participer à des associations pour orienter vers le tiers monde, par exemple. Voilà, parce que c'était un petit peu aussi dans mes études, ce qui me faisait avancer, c'est surtout le problème de la faim, le problème de la pauvreté, etc. Et ça a été toute ma vie comme ça. Mais il fallait d'abord que je vive cette situation. La simplicité, la pauvreté en pleine nature. Et là-bas, j'étais au sein d'une communauté. Après, j'ai rencontré alors ma femme. C'est pour ça qu'après 11 ans, en Haute-Savoie, une autre étape.
Vendeuse de glace, boulevard de la plage, sous sa bâche, elle était belle. Un sourire un peu triste, j'ai senti fresque assise, que je pourrais tailler la zone avec elle.
Alors, une grande rencontre, donc en 1981.
Alors oui, et c'est là que j'ai rencontré ma future, qui faisait aussi l'autostop comme moi. Alors là, on a décidé de partir ensemble.
Vous aviez quel âge en 81?
38, 37 ans. Je voulais vivre autre chose, et notamment connaître le tiers-monde. Donc on est parti en 82, on est parti ensemble pour un long périple en autostop. Mais voilà, on est arrivé quand même aux États-Unis, on n'avait plus d'argent.
Oui, parce que j'allais vous dire, vous travaillez
Non, on n'a pas travaillé, on avait un peu de réserve, mais on vivait avec très peu, on avait une petite tente pour dormir. On a fait Los Angeles, Las Vegas d'abord, on a cherché du travail à Las Vegas, et on a travaillé dans les fraises à Santa Maria, c'est entre Los Angeles et San Francisco. San Francisco, on a cherché dans la restauration française, et on nous a dit aller plutôt un peu plus vers l'intérieur, il y a des productions de fruits, les cerises commencent à mûrir. On a trouvé tout de suite.
Et vous, vous logez
dans une petite entreprise, dans les lieux d'accueil SCF. Et puis on allait faire la queue, alors des longues queues pour la soupe populaire, c'est incroyable, parce qu'on ne s'attendait pas du tout à ça, aux États-Unis. Alors on est resté quand même 3 mois, parce qu'on a trouvé du travail dans les fruits, et on a été logé dans une caravane.
Vous êtes revenu en France comment?
En avion, parce qu'on avait gagné suffisamment d'argent pour payer le retour, là.
Alors vous restez 3 mois aux États-Unis,
oui.
Vous revenez en France,
oui.
Et là en France, vous allez où?
À Verdine, dans le près d'Apt, donc la Haute-Provence.
C'est une maison bleue, adossée à la colline, on y vient à pied, on ne frappe pas, ceux qui vivent là ont jeté la clé. On se retrouve ensemble après des années de route, et on vient s'asseoir autour du repas, tout le monde est là à 5 heures du soir.
On a trouvé une communauté d'accueil de marginaux, de gens qui essayent de se sortir de la drogue, de l'alcool. Et avec eux, on a ouvert la banque alimentaire à Paris. C'était le début, avant les Restos du Cœur. Pour faire bref, on a trouvé quand même un lieu d'accueil merveilleux dans les Cévennes, dans une ancienne ferme abandonnée qui avait été louée par une association belge pour faire de l'accueil. Ils faisaient de l'accueil pendant les vacances. C'était un lieu où il n'y avait ni électricité, ni eau courante. On avait mis l'eau quand même dans la cuisine, avec l'eau d'un ruisseau, mais c'est pas de l'eau potable. On avait l'eau à la source quand même, au pied de la maison. Là, on a vécu vraiment en pionnier. Et quand on a eu 2 enfants, ma femme a dit non, on peut pas vivre dans ces conditions-là. On a trouvé en France, à Pontcharrat, grâce à une amie, on a trouvé un vieux moulin à rénover. C'était une dépendance, on peut dire, de moulin. On a fait une maison très habitable, où on est très heureux, avec nos 3 enfants qui ont grandi dans cette maison.
Oui.
Qui ont grandi dans cette maison.
Et donc là, vous avez fait les marchés?
Alors oui, bien sûr, parce qu'on était presque sur la place du marché, la place Bayard, et j'ai trouvé une ferme à reprendre, une exploitation, comme on dit. Une ferme spécialisée dans l'arboriculture, la production de fruits, et comme j'étais passionné de marché, j'avais ce virus. Dans les Cévennes, je vendais des châtaignes, et j'ai commencé aussi le marché de Chambéry, 2 fois par semaine, et voilà, c'était les marchés principaux, avec la Rochette aussi en Savoie. Mais le marché de Pontcharrat, je le continue parce qu'il est presque, il est sous nos fenêtres.
Et donc, en marge de cette activité de marché, vous écrivez, vous militez?
Ah, oui, parce que j'avais déjà écrit le récit de notre voyage. Ça a été publié en 2004.
Paysan dans la tourmente.
Paysan dans la tourmente. Le sous-titre, c'est Pour une économie solidaire.
Et là, on vous accueille au cours d'une halte à Grenoble, halte qui s'inscrit dans une longue marche que vous avez entamée de Pontcharrat à Bruxelles.
Oui. à pied, avec mon bâton de pèlerin sur lequel est écrit « Partage et rencontre ».
Et donc, vous comptez arriver à Bruxelles
Fin janvier.
Donc, à pied, hein, on le précise.
Oui, je fais une moyenne de 20-25 kilomètres pour permettre quand même les rencontres. Le but, c'est pas de marcher, c'est de rencontrer les gens.
Voilà, Ignace Pité qui vient de rentrer chez lui à Pontcharra après une longue marche de 1500 kilomètres. Une aventure qui fera sans doute l'objet d'un prochain livre, Erika.
Merci beaucoup Michel, on vous retrouve demain pour d'autres aventures, d'autres parcours.